Dans un village où minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 18 mars et aujourd'hui, je vous propose de commencer cette chronique par la lecture d'un communiqué, ou plus exactement de deux communiqués, suite aux agressions dont a été victime la librairie Publico, c'est-à-dire la librairie de la Fédération anarchiste. Donc le premier communiqué est celui qui a été publié par la Fédération anarchiste, donc suite à ces agressions. C'est un communiqué qui date du 9 mars 2024 et voilà donc ce que dit la Fédération anarchiste dans ce communiqué. Ce vendredi 1er mars, sur les coups de 18h30, une personne a dégoupillé puis lancé un fumigène à l'intérieur de la librairie Publico à Paris en criant une phrase incompréhensible puis a pris la fuite à vélo. Heureusement, personne n'a été blessé et même si le fumigène a enfumé toute la librairie, il n'a causé aucun dégât. Un sticker du groupuscule Les Natifs, groupuscule parisien qui s'est monté après la dissolution de Génération Identitaire, a été retrouvé juste après, collé sur la façade, ce qui est clairement une signature. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce mercredi 6 mars, sur les coups de 18h, alors qu'un camarade tourne dans le dos à la rue pour fermer la porte de la librairie, un projectile jeté à quelques mètres de lui qui s'est brisé sur le trottoir. Heureusement, il n'a pas été touché, mais cela nous fait penser que cet incident est lié au précédent. Ces attaques revendiquées par ce groupuscule identitaire parisien ne doivent pas nous duper. Ces événements arrivent alors que les discours d'extrême droite en France sont décomplexés et plus que présents dans le débat public. Les chaînes de télé comme CNews, BFM, C8 déversent discours racistes, propagandes antisociales et réactionnaires à longueur de journée. Le RN, ennemi des travailleuses et des travailleurs et des classes populaires, est complètement dédiabolisé pour être considéré comme un parti normal sur le spectre politique. Récemment, l'ignoble loi immigration, le projet de réforme sur le droit du sol ou encore l'interdiction de l'abaya à l'école participent à légitimer et ouvrir la voie au courant fascisant. Et tout cela s'accompagne évidemment d'un renforcement des inégalités sociales. La Fédération anarchiste affirme sa solidarité avec les compagnes et compagnons attaqués à la librairie Publico cette semaine, mais également tient à réaffirmer sa solidarité avec toutes les personnes qui subissent les violences de l'extrême droite et ou des politiques racistes de l'État, en particulier les personnes racisées et les migrants, et les migrantes et migrants. La Fédération anarchiste réaffirme sa volonté, son action de renforcer la lutte antifasciste, notamment à travers ses groupes locaux, et sa campagne fédérale antifasciste. Partout où il le faudra, organisons-nous pour l'autodéfense et la lutte collective face aux politiques réactionnaires et identitaires. Les relations que signaient les relations extérieures de la Fédération anarchiste, et c'était donc ce communiqué de la Fédération anarchiste suite aux agressions commises contre la librairie de la Fédération anarchiste, la librairie Publico. La Fédération nationale de la libre pensée, dont on se souvient que la librairie a également été l'objet d'agressions il y a quelques semaines, donc a publié immédiatement ce communiqué de presse. Agression contre la librairie Publico, la libre pensée apporte sa solidarité inconditionnelle à la Fédération anarchiste. Pour la troisième fois en deux semaines, après plusieurs autres attaques commises dans le passé récent, la librairie Publico de la Fédération anarchiste a subi des agressions. Ces attaques sont signées par l'extrême droite. Ce sont les mêmes engeances qui ont aussi agressé la librairie de la Libre Pensée. L'histoire nous apprend que l'extrême droite et les catholiques intégristes, deux chapelles dans la même réaction, ont toujours préféré brûler les livres que de les lire. Cela s'appelle autodafé, qui veut dire acte de foi. Ce n'est pas un hasard que cela soit des lieux de savoir et de culture qui sont attaqués par ceux qui ont toujours préféré la formule « ne pense pas, obéis ». Ce sont les institutions agonisantes et décomposées de la Ve République et la politique d'Emmanuel Macron qui jouent avec l'extrême droite en lui ouvrant un boulevard pour préserver son pouvoir afin de mener les tâches de destruction que lui a assigné le capital financier, qui nourrissent le terreau de ses agressions violentes, réactionnaires, racistes, xénophobes et antidémocratiques. La Ve République, de tout temps, a utilisé les bandes armées et sa garde prétorienne pour sauvegarder son pouvoir pour mener sa politique anti-ouvrière. Il est temps d'en finir avec ce régime putride de la Ve République. C'est pourquoi la libre pensée milite pour une constituante libre, élue et souveraine, pour un gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. La Fédération nationale de la libre pensée en appelle à toutes les organisations du mouvement ouvrier, démocratique et laïque pour réaliser un front uni contre les agressions, d'où qu'elles viennent. La solidarité est un principe intangible entre organisations qui combattent pour l'émancipation humaine. Pour sa part, la libre pensée se déclare toujours prête pour servir pour cela, solidarité avec la Fédération anarchiste. Donc ce communiqué a été publié le 17 mars, c'est-à-dire hier. Voilà. Donc ces deux communiqués sont extrêmement importants et c'est vrai que c'était quand même une drôle de période que nous vivons où nous voyons ces agressions des groupes identitaires de l'extrême droite se multiplier contre les organisations qui donc travaillent en particulier sur la défense de la laïcité, sur la défense des libertés. Et finalement, c'est un prolongement, j'allais dire, quasi naturel. Je reviens, je l'avais déjà évoqué lors de précédentes chroniques, sur l'initiative prise pour le 23 mars, Journée internationale contre le racisme et le fascisme. C'est une journée dans laquelle, au niveau de la Dordogne, nous allons nous inscrire, puisque nous avons eu quelques rencontres avec d'autres associations qui soutiennent donc une initiative qui va être rendue publique dans les tout prochains jours, qui va se traduire par un rassemblement samedi prochain, donc à Périgueux, 10h30-11h, devant le palais de justice. Le communiqué qui organise cette journée internationale, fixée le 23 mars pour ce qui concerne la France, c'est une journée internationale donc, qui a déjà commencé dans un certain nombre de pays, puisqu'elle s'étale sur toute la semaine. Donc pour le 23 mars, voilà ce que nous disons. Liberté, égalité, papier. 23 mars, journée internationale contre le racisme et le fascisme. Partout dans le monde, de l'Europe aux États-Unis, les pouvoirs mettent en place des politiques racistes, nationalistes et liberticides sur le dos des immigrés. Partout, cela s'accompagne du renforcement de toutes les inégalités sociales et de l'exploitation de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. En légitimant les idées les plus réactionnaires de l'extrême droite, ces politiques ouvrent la voie au courant fasciste. En France, le gouvernement, tout en s'inscrivant dans la lignée des précédents, franchit un cap dans sa politique ouvertement raciste. La loi Darmanin, interdiction de la baïa à l'école, réforme du droit du sol, etc. Ces décisions politiques impactent concrètement la vie quotidienne de ceux et celles qui vivent et travaillent ici et de celles et ceux qui arriveront demain. Face à ce constat, nous appelons à défendre les droits et la dignité de chacune et de chacun. Notre arme est la solidarité. Partout, dans chaque quartier, chaque école, chaque lycée, chaque université, chaque hôpital, chaque lieu de travail, organisons-nous avec les collectifs de sans-papiers, les mineurs en danger, les femmes et LGBTQI en lutte et les associations de l'immigration, les réseaux de solidarité et les syndicats. Seule la lutte collective permet de défendre ses droits et d'en gagner de nouveaux. Contre les arrestations, les centres de rétention, les expulsions, les violences policières et l'arbitraire préfectoral. Pour la régularisation immédiate et collective de tous les immigrés sans papier, à commencer par les travailleurs en lutte de Chronopost, DPD, Emmaüs, les chantiers de l'Arena et des piquets du 17 octobre. Pour l'abrogation de la loi Darmanin, contre les quotas, la remise en cause du droit du sol et de l'aide médicale d'État, pour la liberté de circulation et d'installation, pour le respect du droit d'asile, un logement, des soins, l'accès à l'éducation pour toutes et tous, pour l'égalité des droits, la justice sociale, pour une vie libre et digne et contre le racisme, pour contrer le fascisme et le nationalisme. À l'occasion de la journée internationale du 21 mars, des manifestations ont eu lieu dans le monde entier, du 16 mars au 23 mars contre le racisme, le colonialisme et le fascisme. Nous appelons à faire converger nos luttes, à rendre visible la solidarité en manifestant partout en France le samedi 23 mars. Nous espérons que la France mette fin à ses pratiques coloniales à Mayotte, comme dans les autres départements et territoires d'outre-mer et plus généralement en Afrique. Nous refusons que s'organisent en notre nom en France les JO du racisme d'État, pour la liberté, la dignité et l'égalité des droits, dans nos quartiers et nos lieux de travail, comme à Mayotte et en Palestine, notre monde s'appelle solidarité. Voilà. Et donc, le texte se prolonge par toute une série de liens permettant d'avoir les informations sur les différentes initiatives au niveau mondial, les différents appels à manifester, à rassemblement, etc., etc. Vous retrouverez donc ce communiqué sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée et également sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, pour pouvoir aller sur ce site. Voilà. Alors, je passe à un autre sujet, puisque aujourd'hui, donc, nous sommes à la période anniversaire de la loi qui a été adoptée le 15 mars 2004, et la vigie de la laïcité fait le point, donc, 20 ans après le vote de cette loi, à travers une lettre d'information que vous retrouverez également sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée, avec toute une série de sujets qui sont évoqués. Un entretien de Charles Mercier avec Jean Bobéro sur son expérience à la commission Stasi en 2003. Le témoignage de Jean-Louis Bianco, c'est-à-dire la mission Debré et le vote de la loi du 15 mars 2004. Un entretien de Charles Mercier avec Anne Fornerode, quelques éclairages juridiques. Un autre point également sur la question « Assurer un système d'enseignement public laïque de qualité pour toutes et tous ». Un autre article encore, « Les effets de la loi de 2004 sur le monde enseignant, mais aussi sur les familles et les élèves ». Autre article, « Se débrouiller avec la laïcité ». Autre article encore, « La tolérance, condition de la laïcité ». Et sur donc toutes ces questions qui... 20 ans après le vote de la loi donc, du 15 mars 2004, Jean Bobéro a publié également dans son blog Mediapart, dans le club Mediapart, un billet dont je vais vous faire lecture. Donc Jean Bobéro, je rappelle, professeur émérite de la chaîne Histoire et sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, auteur notamment de deux que sais-je, Histoire de la laïcité en France et Les laïcités dans le monde. De Laïcité sans frontières, également un autre livre avec M. Millot au Seuil, Les sept laïcités françaises et la loi de 1905 n'aura pas lieu, pour évoquer donc ses ouvrages les plus récents. Donc, que dit dans ce billet Jean Bobéro ? Billet intitulé « École, République et laïcité ». Il y a quelques mois, la professeure de droit public Stéphanie Hennette Vaucher publiait « L'école et la République, la nouvelle laïcité scolaire ». Démonstration impeccable et implacable sur la situation de la laïcité scolaire 20 ans après la loi de 2004, 3 ans après celle du 24 août 2021 et aussi 2/3 de siècle après la loi Debré créant l'enseignement privé sous contrat. Bilan. En effet, la grande originalité et l'apport fondamental du livre donc de Stéphanie Hennette-Vaucher consiste à analyser ensemble les transformations de l'école publique et de l'école privée. Le résultat est un ouvrage ouvrant de nouveaux horizons que tous les professeurs et toute personne intéressée devraient lire afin d'être au clair sur les mutations profondes de la laïcité à l'école. L'importance de la laïcité scolaire en France n'est plus à démontrer. D'abord, nul hasard si la laïcisation de l'école publique a précédé la loi séparant les églises et l'État. Beaucoup de républicains estimaient nécessaire de socialiser les élèves dans une école confessionnellement neutre avant de réaliser la séparation. Ensuite, en 1946, dans un même mouvement, il se produit un double avènement du principe de laïcité. La Constitution affirme que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. En même temps, elle déclare la République laïque. Enfin, l'importance donnée à l'école publique laïque est une des spécificités de la laïcité dite à la française, prenant parti pour une séparation conciliante qui le faisait traiter de socialo-papalin, expression ancêtre de celle d'islamo-gauchiste. Jean Jaurès justifiait ainsi sa position face à ceux qui voulaient promouvoir un catholicisme républicain. Sans doute, certaines croyances catholiques sont des superstitions. Pourtant, il ne saurait être question d'opprimer par la force ou par la ruse ces vieilles croyances. Il faut plutôt, poursuit Jean Jaurès, par l'éducation laïque des générations successives, faire pénétrer dans l'Église catholique les mœurs de la liberté, sans qu'elle puisse alléguer qu'on a cherché par ruse à rompre son organisation. Et je renvoie également, en lisant ces lignes, au film titré « La séparation » disponible sur YouTube, qui reproduit de manière très intéressante les principaux moments des débats qui ont précédé le vote de l'adoption de la loi de 1905, dans lequel on a en particulier ce discours de Jean Jaurès qui a joué un rôle extrêmement important dans le vote de la loi. Alors Jean Bobéro poursuit dans son billet. « Pourtant, en dépit de l'importance accordée à la laïcité de l'école publique, la République n'a jamais réalisé une école laïque gratuite et obligatoire qui aurait impliqué l'instauration du monopole de l'État. Ferry a défendu la liberté de l'enseignement pour deux motifs. La nécessité d'établissements libres qui courent des aventures, face des expérimentations qui profiteront à l'école publique, le refus d'aboutir avec le monopole à une sorte de religion laïque d'État imposant des doctrines philosophiques, ce qui revenait à indiquer que l'école laïque était faillible. Buisson, Ferdinand, a expliqué en 1903 au congrès du Parti radical au pouvoir que monopoliser la liberté revenait à l'abolir, et la même année, Clémenceau, au Sénat, affirmait que monopole entraînerait l'État laïque dans un rapport mimétique avec l'Église romaine. Je repousse l'omnipotence de l'État laïque parce que j'y vois une tyrannie. Clémenceau qui écrivait cela. Et le tigre de lancer aux laïcs tentés par le monopole. Vous rêvez l'État idéal. Cet État, vous le faites aussi beau qu'il peut vous plaire, mais nous sommes tous ici des hommes faibles, changeant aux prises avec les réalités. Le peuple est faillible aussi. Nous n'avons pas remplacé le pape par le peuple et nous sommes tous faillibles. Vous comprendrez avec la conclusion pourquoi j'ai insisté sur cet aspect, commente Jean Bobéro. Néanmoins, la liberté de l'enseignement ne signifiait pas pour autant un subventionnement public de l'enseignement libre. La situation change dans les années 1950. Dès 1919, pour l'enseignement technique industriel et commercial, en fait. En 1951, avec les lois Marie et Barranger, et surtout en 1959 avec la loi Debré permettant à l'enseignement privé, c'est-à-dire alors dans les faits à l'enseignement catholique, très appauvri et fragilisé au lendemain de la guerre, de disposer d'une manne financière importante en concluant des contrats avec l'État, dans le défi que constitue alors, pour ce dernier, la massification de l'enseignement. L'autrice, donc c'est Jean Bobéro, parle donc du livre de Stéphanie Vauchez, Enette Vauchez, pardon. Donc, l'autrice indique que ce subventionnement s'élève aujourd'hui à plus de 8 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 14% du budget de l'éducation nationale, sans compter le financement des collectivités locales, ce qui déroge à la règle de l'interdiction du financement public des cultes, énoncée par l'article 2 de la loi de 1905, 50% des élèves ont fréquenté l'école privée au cours de leur scolarité. Alors que le discours néo-républicain présente la logique de l'accommodement comme étrangère et incompatible avec le modèle français de laïcité, on trouve là un énorme accommodement. Certes, il n'est pas le seul. Et comme Gwenaël Calves, pourtant assez proche du printemps républicain, Enette Vauchez donne d'autres exemples d'accommodement opéré par la laïcité française, ce que j'appelle la laïcité immergée, angle mort qui pourtant s'avère indispensable au respect de l'article 1er de la loi de 1905, « La liberté assure la liberté de conscience ». Mais cet accommodement-là est bien différent. Il ne se traduit pas par des exceptions ponctuelles, mais par des éléments structurels. Et outre l'ampleur du financement accordé, il aboutit à un partenariat Église catholique État laïque, faisant du secrétariat général de l'enseignement catholique une sorte de ministère bis de l'éducation nationale. J'ai constaté d'ailleurs, dit Jean Bobéro, il y a quelques années, que la voiture de fonction du SGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique, arborait des drapeaux tricolores. Dans ma terminologie de sociologue, si les autres accommodements cités forment des éléments d'une laïcité de reconnaissance, ce système scolaire relève d'une laïcité de collaboration et même, en fait, davantage de la logique concordataire d'avant 1905 que de celle instaurée par la loi de séparation. Le contrat érigé par la loi Debré impose deux obligations aux établissements privés. le respect des programmes de l'éducation nationale et celui de la liberté de conscience des élèves. Néanmoins, avec ce que cette loi appelle le « caractère propre », il se produit une décorrélation entre association au service public et principe de neutralité. La religion peut être non seulement enseignée, mais aussi présente et visible sous différentes formes. D'ailleurs, lors de l'adoption de la loi du 24 août 2021, il a fallu expliciter le fait que les écoles privées constituent une exception à la règle nouvelle assujettissant des employés des entreprises privées participant à l'exécution du service public aux obligations de laïcité et de neutralité. La loi Germer de 1977 fait d'ailleurs obligation aux enseignantes et enseignants des écoles privées, sous contrat, de respecter leur caractère propre. Telle est une citation de la loi. Ainsi, le divorce peut constituer un motif suffisant de licenciement. C'est, nous dit l'autrice, un exemple de socialisme juridique où l'on considère que la liberté de l'enseignement constitutionnalisée en 1971 nécessite d'accorder des moyens matériels qui permettent de réaliser concrètement une liberté formelle. Mais paradoxalement, ce socialisme juridique s'effectue au profit de la bourgeoisie et de la classe moyenne aisée. Enid Vauchez cite Antoine Prost. Actuellement, citation, « tout se passe comme si le secteur public assurait le gros du service d'enseignement pour la masse des consommateurs ordinaires, comptant sur le secteur privé pour remédier à ses propres vices de fonctionnement et assurer le service à la carte d'une clientèle plus exigeante. » Fin de citation. L'école catholique sous contrat s'est largement déconfessionnalisée. Cependant, l'Église catholique peut mener une action prosélyte auprès des élèves qui la fréquentent. Et ce qui reste d'enseignement privé hors contrat s'est reconfessionnalisé, tout en bénéficiant, dans certains cas, de déductions fiscales. Il en est ainsi de la Fondation pour l'école, reconnue d'utilité publique depuis 2008, malgré ses liens avec des milieux catholiques intégristes. D'autre part, l'enseignement privé juif, qui s'est développé dernièrement, accorde une large part à un repli sur un entre-soi. En définitive, des pratiques communautaires discriminantes, jugées gravement illégales en droit anglais, sont tolérées en France. On voit à quel point l'opposition frontale, encore faite par un invité au téléphone sonne de France Inter du 7 mars entre la laïcité française et la laïcité anglo-saxonne, est un stéréotype éculé, énoncé par l'institution scolaire pour se rassurer face à la non-maîtrise de ces problèmes. Depuis 10 ans, indique Enid Vauchez, un nouveau discours se développe sur les obligations et les contrôles dont les écoles privées doivent faire l'objet. Or, cette évolution politique coïncide avec l'émergence d'un secteur privé d'enseignement musulman. Un membre de la mission d'information du Sénat constate en 2016 il y a une vraie réticence de la part de l'État face au développement de l'enseignement musulman, à la fois au nom d'une laïcité négative et par crainte de l'islam. Or, ce développement est dû en bonne part à la loi de 2004 et ses suites interdisant le port de signes religieux dits ostensibles par les élèves. La mission d'information sénatoriale le reconnaît. Citation. Les mesures légales ou réglementaires prises par la puissance publique à ce sujet ont accéléré la création d'établissements musulmans, les porteurs de nouveaux projets ayant pour ambition de rescolariser des jeunes filles voilées exclues de leur école publique. On est là au cœur d'un singulier paradoxe mis en lumière par Enid Vauchez. Si la loi de 2004 a pu être considérée comme non contraire à la Constitution, si la Cour européenne des droits de l'homme ne l'a pas invalidée, c'est parce que les élèves exclus suite à cette loi peuvent être scolarisés dans des établissements privés, y compris des établissements catholiques, puisque la loi Debré leur fait obligation d'accueillir des élèves de toute conviction, même s'il leur est reconnu le droit d'inclure dans le règlement intérieur une clause incorporant la loi 2004, ce que certains ont effectivement fait. L'autorité académique a elle-même, dans certains cas, demandé à un établissement privé catholique sous contrat de scolariser des élèves exclus de l'enseignement public. Et une figure comme Robert Badinter a affirmé que la loi ne portait pas atteinte à la liberté de conscience, précisément parce qu'elle ne s'applique qu'à l'enseignement public. Il y a là, nous dit l'autrice, Enid Vauchez, une forme singulière d'aveu implicite que la liberté de conscience, préservée par hypothèse dans l'enseignement privé, serait bien mise en cause dans l'enseignement public. Le développement de l'enseignement privé juif et l'émergence d'un enseignement privé musulman relèvent de la même logique. Autrement dit, Ce paradoxe se déploie de trois manières. D'abord, la loi de 2004 et ses suites favorisent l'enseignement privé. On est donc bien là dans une nouvelle laïcité, structurellement divergente de la laïcité historique, où un tel dispositif aurait été considéré comme l'abomination de la désolation. Ensuite, l'enseignement privé devient un dispositif indispensable pour faire respecter la liberté de conscience, qui, jusqu'à preuve du contraire, est indissociable de la laïcité et de la démocratie. L'enseignement privé change donc structurellement de statut par rapport à la laïcité. Et les laïcs qui protestent contre les faveurs qui lui sont accordées, alors même qu'ils défendent la loi de 2004 et ses suites, sont, consciemment ou non, dans une totale hypocrisie. Enfin, cela signifie que dans les faits, la République préfère que de jeunes musulmans soient scolarisés dans des établissements privés plutôt qu'à l'école publique. Enette Vaucher cite une des sœurs Lévy, exclue de son collège en 2003 pour port du voile. Si la loi est adoptée, le repli communautaire sera sans précédent et ils l'auront bien cherché. C'est malheureux, la France, en prétendant lutter contre le communautarisme, est en train de l'accroître. C'était donc la citation. Quelle belle façon républicaine cette adolescence donnait aux politiques et aux militants néo-laïcs incapables de percevoir les effets non voulus, mais hautement prévisibles de leurs actes. Et dire que ces politiques et ces militants accusent celles et ceux qui se sont montrés lucides d'être naïfs face à l'islamisme radical, en fait, ce sont elles et eux qui, en ne tenant pas compte du paradoxe des conséquences weberien, favorisent le communautarisme et le Rassemblement national de surcroît. J'ai parlé à plusieurs reprises de la loi de 2004. Enette Vaucher nous en apprend beaucoup sur l'amont et l'aval de cette loi. L'amont de la loi, notamment, en montrant que c'est à tort que les partisans de l'interdiction du voile se sont fondés sur les circulaires Janzet et en mettant en lumière la différence entre l'arrêt du Conseil d'État, qui indique que ce port n'est pas en soi incompatible avec la laïcité, mais peut le devenir s'il devient ostentatoire, et la circulaire Jospin, qui met les profs dans une situation impossible en leur fixant comme objectif de faire enlever le foulard, tout en signifiant qu'il sera toléré in fine. L'autrice rappelle également que dans certains cas, le Conseil d'État a validé l'interdiction du foulard, il n'était donc pas permis de faction inconditionnelle, et que par ailleurs, en 2001, les sœurs congrégationnistes n'ont pas été obligées de modifier leur tenue religieuse, bien qu'elles collaborassent au service public pénitentiaire. De plus, si aussitôt après le vote de la loi de 2004, une certaine souplesse paraissait admissible dans son interprétation, et si la commission Stasi qui la légitimait avait émis un nombre de propositions qui feraient assurément aujourd'hui figure de provocation séparatiste, en fait, en aval, un durcissement subséquent s'est produit, notamment avec la disparition de la HALT, c'est-à-dire la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, supprimée par Nicolas Sarkozy. La chasse aux signes religieux par destination a conduit à suspecter des élèves se conformant à la loi dans l'enceinte scolaire, sous prétexte qu'elles portaient un voile hors de l'école, problème des jupes longues, etc. etc. On n'est plus dans le respect des principes, mais dans une obligation d'une adhésion aux valeurs, audites valeurs de la République, que pourtant cette dernière transgresse allègrement quand l'école, loin d'atténuer les inégalités sociales, les accroît. La laïcité devient une religion civile d'un autre type que la religion civile américaine, mais tout aussi prégnante. La mise en cause de la tenue de parents d'élèves a fait prévaloir une interprétation spatiale de la loi, où les signes deviennent interdits dans l'enceinte scolaire, l'école laïque étant définie, ironie involontaire, par le thème « on ne peut plus religieux » de « sanctuaire ». Et avec le développement d'un « infradroit », constaté également par Calvès, « in fine », cet espace scolaire n'est même plus un espace au sens géographique du terme, mais un espace métaphorique mobile constitué en réalité par la seule réunion des élèves, version scolaire du jeu de paume, partout où les élèves sont réunis, là est l'école républicaine. Ces dispositions deviennent le paravent de principes authentiquement discriminatoires des lois récentes comme la loi Gatel de 2018 et la loi d'août 2021, aggravant la situation. Je n'ai pas tout à fait terminé la lecture de cette contribution de Jean Bobéro, mais vous pourrez la retrouver donc sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Et je vous donne rendez-vous pour lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la libre pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également Retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.